Ségolène a été agressive avec Nicolas. Lui qui est si mignon, si calme et si respectueux avec son entourage et certains journalistes, si tolérant. Pour le débat, il était calme, cool, l'exomie, les Prozac. Et en plus, Nicolas n'est pas du tout un grand manipulateur. Et n'oubliez pas, Nicolas vous fait des bisous, des petits bisous dans le cou. Au revoir à tous.
Ouais, salut Daniel, comme tu le dis, c'est donc Nicolas qui va être président dimanche. Eh ben les mecs, à partir de lundi, vous allez commencer à raser les murs un petit peu à France Inter depuis le temps que tu laisses des saloperies courir sur son dos, hein? Eh oui, comment il va vous carchériser la racaille de France Inter? Attention les petits gars là, ça va chier dans son froc là, hein? Ça va faire du bien tout ça. Ah oui, c'est en fait, ah oui, c'est ton copain de corbeau.
Notre Berlusconi français n'a toujours pas de bilan, pas de patrimoine non plus. En revanche, on sait maintenant qu'il a une super moumoute prêtée par Christian Clavier et qu'il a toujours trop regardé les films de Louis de Funès. Seulement là, voilà, c'est pas pour rire. Alors le ciné, je voterai Royal, sans état d'âme, sans lui donner un blanc sang non plus, en espérant que la gauche de la gauche ne se contentera pas de regarder les films de Moretti, fera son boulot, proposera des plans B, s'organisera pour défendre les salariés au niveau européen et donner un peu d'espoir dans ce monde de gens trop bien habillés.
Oui, bonjour, Daniel Mermet, ici c'est Ginny de Val-de-Marne. Écoutez-moi, la première fois j'ai voté pour Sarkozy, mais hier soir je suis convaincue que c'est Ségolène Royal qu'il faut voter. Parce que Sarko nous a menti. Ben, je suis vraiment désolée et déçue. Et puis c'est une femme de caractère quand même, hein. Franchement, je suis vraiment contente et j'ai décidé hier soir. Allez, je vous embrasse et à bientôt.
Mon vote a été modifié par cette dernière entrevue entre Ségolène et Sarko. Je dis oui, je voulais voter Ségolène parce que je suis socialiste, mais elle m'a écœurée par son agressivité, sa mauvaise foi. Elle m'a dégoûtée et donc je vais voter Sarko. Je sais que c'est pas bien, mais je le fais quand même, parce qu'elle m'a mise, moi aussi, très en colère. Voilà, c'est Valérie de Royan.
Le monde fonctionnait sur un système économique qui consumait méthodiquement les territoires du vivant et organisait des formes insidieuses d'asservissement des humains. La plus grande partie d'entre eux, les rabougris, ne survivaient qu'en achetant les ordures des boursouflés. Baignés dans un environnement saturé de miroirs, les rabougris étaient conditionnés pour l'acte d'achat dès leur existence fœtale. Ils se demandaient souvent d'où provenait leur mal de vivre. Pour démultiplier leurs profits tout en évitant la révolution, les boursouflés avaient détourné l'attention des rabougris en créant de toutes pièces un pseudo-choc de civilisation à l'échelle mondiale. Cela avait été facile. Il avait suffi de diviser les rabougris en braquant sur eux d'innombrables miroirs. De cette manière, ils les avaient changés en millions de clones stériles d'idéal masculin et en millions de clones stériles d'idéal féminin. Dès lors, les relations humaines ne furent plus directement vécues, mais diluées dans leurs représentations spectaculaires. Car tout avait été mis en scène. Les boursouflés tiraient les ficelles de leurs marionnettes dociles et dévouées. Pour ma part, je pense que le suicide est un problème génétique, dit un boursouflé. Ensemble, tout doit disparaître. Non. Ensemble, tout devient possible. Le théâtre prit feu et carbonisa.
Nicolas Sarkozy vous aime. Nicolas Sarkozy vous fait des bisous dans le cou. Des petits bisous dans le cou. Nicolas Sarkozy vous aime.
Et oui, il y a les queues qui sont déjà basses et les queues qui bougent déjà dans la boîte vocale de la basse, si j'y suis. Aujourd'hui, c'est une boîte vocale avec une fente sur le dessus en forme d'urne. Et les voix des électeurs, eh bien, ce sont les voix des auditeurs. Vous dire si c'est le même pourcentage que celui qu'on trouvera dimanche... On ne sait pas ce que ce vote donnera, mais enfin, on peut quand même en douter un petit peu. Néanmoins, on va aujourd'hui se balader dans cette boîte vocale avec les messages que vous y avez laissés ces jours derniers, et notamment depuis hier, très très nombreux messages sur un seul thème, ou presque. Mais enfin, il y a quand même des, vous allez voir, des sorties de pistes assez intéressantes, jubilantes, sinistres, rigolote ou judicieuse, enfin vous connaissez, et vous connaissez puisque c'est vous qui faites le travail aujourd'hui jusqu'à 16h, donc les messages des auditeurs dans la boîte vocale de la basse J'y suis transformée en urne.
J'appelle à propos de l'élection, il y a des gens qui sont les routiers qui devraient se souvenir au moment du vote comment Sarko avait brisé leur grève en disant « si tout le monde ne remonte pas dans les camions, on prend les permis de ceux qui continueront la grève. » Alors que les routiers, les épouses de routiers, les enfants de routiers, les papas de routiers, etc., etc., se rappellent dans le soir d'avoir voté. Ça fait un paquet de monde, hein, parce que ce jour-là, il a quand même très très mal agi. Voilà, espérons que ce ne sera pas lui. Allez, au revoir.
Voilà, depuis deux jours, j'entends des reportages qui me laissent perplexe sur les intentions de ton émission, d'habitude engagé et agréable, disons, pour des gens de progrès comme je suis. Or là, je m'interroge parce qu'il y a beaucoup de flatteries sarkoziennes qui me hérissent le poil, étant donné que ce type, on le sait, est un individu dangereux, nuisible pour notre jeunesse. Et je ne comprends pas ces reportages où on lui déroule le tapis. Ça me choque un peu. Je suis un peu déçu, Daniel. Au revoir.
Je lance un appel à tous ceux qui se lèvent pas tôt et qui profitent du système. Les chômeurs, les pré-retraités, les RMIs, les handicapés, les exploiteurs de minima sociaux. Mettez votre réveil à sonner dimanche et allez voter. Attention, choisissez bien parce que dès lundi, vous risquez d'être tiré du lit à coups de fourche. Salut, j'ai 69 ans, je suis retraité et je trouve que ce qui se passe est très grave. Allez, à dimanche soir, j'espère, pour fêter la victoire.
Ouais, on lui a tellement répété, les conseillers de Sarkozy lui ont tellement répété pour se préparer au débat qu'il fallait qu'il trouve à un moment donné une phrase du style « Vous n'avez pas le mode de Paul Ducœur ?» que... À un moment donné, il a dit, vous n'avez pas le monopole il n'a pas su quoi finir. Moi, je trouvais ça très marrant, quoi. Voilà, c'était Fred.
À l'heure où les replis identitaires, ethniques, religieux ou nationalistes gagnent du terrain, où la culture devient standardisée par les modes, les images et le mensonge publicitaire, la musique a plus que jamais son mot à dire, plus d'une pensée à faire circuler, plus d'un souffle artistique, politique, moderne à nous faire entendre. Loïc Lantoine, Titi Robin, Bernard Lubat, Fantasio, Daniel Waro, Édouard Glissant, Christian Pacou, André Mainviel, Beniata Tchari, la compagnie des musiques Aouir, Grand Corps Malade, Ossin Ben et bien d'autres seront tous là au Bouffe du Nord, la veille, le lendemain et le surlendemain du second tour des élections pour trois grandes veillées électorales, poétiques et musicales à l'air libre, populaire, savante, libre et inclassable. De l'acte éphémère au plaisir partagé, ces cultures vivent, vibrent et se réinventent parce que ce qu'elles ont de plus inaliénable, l'oralité, le sens de la rencontre, l'essence poétique de toute forme de langage et un amour intarissable de la liberté. Quel que soit le résultat des élections, les artistes seront là, vigilants, pour préserver une liberté d'expression libre et expressive. Venez vite et nombreux au Bouffe du Nord, les 5, 7 et 8 mai. La veille, le lendemain et le surlendemain du deuxième tour. Quoi qu'il arrive, ils seront là, et nous aussi. À bientôt.
Tout est calme. Pro. Les rires s'éloignent en écho. Les mots s'éteignent dans les gorges. Humanité sort du dico. Et l'audace a éteint ses forges. Les cœurs ne font plus de bruit et s'accélèrent dans le silence. Ça s'inquiète tant que ça fuit dans une douteuse cadence. Le monde est flou et lâche la rampe. On n'entend rien qu'un souffle qui peine Et si contre le vertige on rampe, on goûte à la source de la haine. À les écouter y chuchoter, tous ceux qui se font leur beurre de la peur. On fixe demain les yeux fermés, la vie se vide, pleu à pleurs. Et les professionnels de la trouille parviennent à nous rallier tremblants et qu'on condamne la débrouille au nom d'un dangereux or puant. Il y aura de la merde dans nos urnes et ce silence on se le mangera. Journée nocturne et chemise brune, j'ai peur, mais faut pas que ça se voit. Tout est calme.
Bonjour ou bonsoir, vous êtes bien sur le répondeur de la Bastille, j'y suis. Vous avez 2 minutes pour nous laisser un message. Laissez-nous vos coordonnées qui ne seront pas diffusées à l'antenne. Attention, c'est à vous après le signal sonore.
C'est à vous après le signal sonore, c'est la Bastille, j'y suis, Daniel Mermet, Christophe Imbert et toute l'équipe de la Bastille, j'y suis.
Flight number 2, arriving from...
Oh, oh vache, mais t'es endormi, purée. Oh, j'ai dormi, je sais pas combien de temps, mais j'ai dormi. Enfin, j'ai bien dormi plusieurs jours, voire peut-être 2 mois, je sais pas. Ça fait un paquet de temps, en tout cas. Oh la vache, je me sens tout... Putain, j'ai du mal à me relever et à marcher, là. Putain, on en est où, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est... Ah oui, le monde, tout ça, ouais. Les élections en France, voilà, c'est ça. Ça y est, il est passé ou pas? C'est gagné? J'arrive. Je sais pas. On en est où? On en est où? Oh, je sais pas si ça vaut le coup de se réveiller, tiens. Oh, j'y retourne.
Je m'appelle Lucienne. Bonjour, ma mère, j'en ai marre. Il manque que les élections soient finies. Tu es anti-sarco et y en a marre. On peut avoir n'importe quelle idée, mais vivement que ça soit fini. Alors, vive Sarko, je t'écouterai quand même. Et à lundi. Salut.
Les 68 en héritage, point d'interrogation, c'est le formulaire qu'on a reçu, nous, des enfants et des parents, qui, dans les années 70, se sont développés dans des écoles ouvertes de pédagogie Freinet. Merci Hubert, merci Christian, merci Annick, merci Pierrette, merci Pierre, merci Christian, merci, 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 moult merci, chers maîtres, chers instituteurs qui ont formé nos esprits. Et oui, Christian, si t'écoutes là-bas, si j'y suis, tu crois que notre CM1, notre CM2, il faut qu'on le mette à la poubelle? C'est vraiment incroyable, quoi. C'est rigolo, justement, le fait qu'il y ait une sociologue qui suive notre histoire. Et j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Je t'en informe, Daniel, ça serait drôle que vous suiviez ça aussi. On est une centaine, visiblement, de qu'elles sont, de ces jeunes sociologues. Et quand j'entends les propos de Sarkozy, je prends ça vraiment... Quand je pense à tout ce qu'on a vécu de formidable à l'école Ange-Guépin, à Nantes... Je t'emmerde, Sarko. Au moins, on a eu l'esprit libre et on a été ouvert sur plein de choses, plein de domaines. Hein, et ça a peut-être donné, je sais pas où en sont mes camarades, que je salue. On a eu des parcours peut-être un peu atypiques. Mais malgré tout, je pense que notre esprit critique, il est là, quoi. J'en suis contente. Vraiment très contente. Tous les jours, j'y pense. Et ça, personne ne nous l'enlèvera. Personne. Jamais. On peut analyser ça de façon... différentes, il y a plein de choses à dire, mais fondamentalement, c'est vissé, je pense, dans nos cœurs, à nous, les cobayes de 68. Donc, bah voilà, hein, ça c'était un message pour vous, là-bas, si j'y suis, c'est pas forcément transmissible, hein, voilà, c'était pour vous en informer, je vous en avais déjà parlé, je crois.
Citoyennes, citoyens, dans le cadre du plan Alzheimer, voici une première petite leçon de mémoire. Messieurs Patrick Devedjian, Gérard Longuet et Alain Madelin soutiennent ardemment M. Sarkozy. En mai 1968, les mêmes messieurs Devedjian, Longuet et Madelin militaient à Ordre Nouveau ou à Occident et faisaient de la politique avec des barres de fer. Les barres de fer, ça fait drôlement mal. C'est Pascal, un fils de sidérurgiste lorrain, qui vous le dit. Vous aurez été prévenu.
Voilà, quelques échos sur la mémoire de 1968, 40 ans après. Mais ça fait bien longtemps que cet héritage et cette histoire est interprétée, réinterprétée, diabolisée, triturée dans tous les sens. Et en tous les cas, bien sûr, ça vaut de nombreuses réactions sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, réactions dans tous les sens, tant quand même il y a des limites à ce qu'on peut appeler un véritable le révisionnisme de l'histoire. On continue avec les messages très vifs, très souvent, très passionnés, des fois très marrants, des fois pas du tout, que vous avez laissé dans la boîte vocale de la Basse-Gisson.
Bonjour, c'est Sylvie. Ben voilà, donc je vous annonce que samedi qui vient, donc à 16h, au bar L'Alambic à Belfort, eh ben se tiendra le repère des amis de la Basse-Gisson. Ben, en ce moment, il fait beau, les oiseaux chantent, ça sent bon le muguet. Et puis, il y a eu un super débat à la télé. Eh ben, ma foi, si vous avez envie de discuter de tout ça, je vous y invite cordialement. À samedi.
Ce 22 avril, compte pour moi. Nicolas Sarkozy est à plus de 30% des suffrages. Il est au second tour. Mon inquiétude, mon angoisse grandissent. Pourquoi s'inquiéter ? Peut-être parce que je suis policier. Depuis quelques années, je me désespère, je me désole. Nous voilà police nationale, au service d'un seul homme, d'un État. Nous devons donner du résultat, nourrir les chiffres, rechercher du fait élucidé. Faut verbaliser, faut interpeller. Et la population, elle, la population, qu'attend-elle de la police? Sarkozy a choisi pour elle. La police, c'est-à-dire Nicolas, doit les protéger de la délinquance. Mais réprimer, est-ce protéger? Je ne sais pas. Moi, je serai pour la médiation sociale et pas la répression sociale. La police aime-la ou quitte-la. Moi, je vais la quitter.
Oui, bonjour tout le monde. Bon, bah, c'est un petit message à notre futur président. Au niveau chanson, il connaît bien la chanson des partisans, mais moi, je peux lui apprendre la butte rouge, par exemple, le temps des cerises ou la cucaracha. Alors, s'il veut prendre contact avec moi, c'est Jean-Claude Jardinier Acier. Ciao.
La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene respaldo. Las dos patitas de atrás, cha cha cha, cha cha cha. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Las dos patitas de atrás. La maldita cucaracha es un animal muy necio, anda metiendo la pata en la guerra y el comercio. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, le falta las dos patitas de atrás. Cha 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 cha, ya no puede caminar. ¿Qué? ¿Qué? Las dos patitas de atrás.
cher Daniel, je réagis suite à l'émission d'hier concernant ce cafetier parisien qui nous parlait d'Assistana, avec soi-disant cette femme qui avait déclaré 80 ou 800 enfants, je crois, enfin, ce genre d'imbécilité. Il faut être clair une bonne fois pour toutes. L'Assistana concerne chaque Français et Française à un moment ou à un autre de sa vie. Que ce soit le chômage avec les ASEDIC ou le RMI, que ce soit les aides au logement, que ce soit les allocations familiales, les bourses scolaires, la sécurité sociale et la retraite. Et oui, la retraite, c'est aussi de l'assistanat, puisque c'est l'État qui redistribue les cotisations des travailleurs aux seniors. Bref, n'allez pas croire que je suis contre, bien au contraire, mais qu'on arrête de faire passer les chômeurs pour les croque-mitaines de la société française. D'ailleurs, les chômeurs sont en général des anciens travailleurs qui avaient cotisé pour des gens qui étaient à un certain moment de leur vie au chômage. C'est une roue qui tourne. Faire passer les chômeurs pour des feignants alors que beaucoup d'entre eux sont parents peut avoir de graves conséquences sur l'éducation de leurs propres enfants, qui naturellement ne les respectent pas. Voilà ce que j'avais à dire. Groucho Marx de Ségolande.
Bonjour, je m'appelle François, je vis en Angleterre depuis près de 20 ans et ce que je viens d'entendre cette semaine à la radio m'a fait penser un peu à une fin de guerre parce que les gens vont se retrouver s'ils votent à droite comme après les années Thatcher où les pensions ont été réduites aux économies de chacun, bien sûr réservées à ceux qui sont capables de sauvegarder un peu d'argent après avoir payé nourriture de base, impôts locaux, charges, électricité, chauffage, emprunt pour le logement et soins dentaires, lunettes et tous les soins médicaux, les... Par ailleurs, les banques ne prêtent qu'aux grosses entreprises, celles cotées en bourse. À Londres, la City roule avec l'argent des grandes entreprises mondiales, y compris celles du CAC 40, et se roule le soir dans les pubs pour tenir la part. J'ai vécu la reconstruction de la France dans le Nord après la Deuxième Guerre mondiale, et je ne voudrais pas un même lendemain, quelques années après les élections. Madame Royal est une femme, mais au moins elle ne fera pas couler le bateau. Je vous souhaite bonne chance, je vous remercie beaucoup pour vos émissions, je vous embrasse tous. Au revoir. Je m'appelle Françoise, j'habite à Cheltenham, en Angleterre. Au revoir.
Alors, mais quand tu parles de chapelle, de ceux, des journalistes qui viennent défendre leur chapelle, ben toi, la tienne, on sait laquelle que c'est la voie si j'y suis, avec les deniers des contribuables, n'est-ce pas? Voilà. Alors, il serait bon un peu de temps en temps de parler quand même de Sarkozy, hein, et pas être un pro... Un pro Ségolène, défendre Ségolène, pour moi Ségolène, ça vaut rien. Alors quand t'as dit de l'audace, moi j'ai dit connasse, mais voilà. Audace égale connasse pour Ségolène. Salut.
Vous voyez, on trouve aussi de ces déjections dans la boîte vocale de la basse. J'y suis depuis quelques semaines, mais on trouve aussi des choses comme ce témoignage de cette auditrice qui vit en Angleterre et qui dit des choses évidentes, toutes simples, que tout le monde sait de l'autre côté de la Manche sur la vie réelle et les inégalités sociales nombreuses dans ce pays, ou bien ce que disait l'auditeur précédent sur l'assistanat, bien évidemment que à un moment ou l'autre de notre vie, les uns ou les autres, nous sommes assistés, et c'est bien toute la question de la protection sociale qui est visée quand on critique l'assistanat, qu'on emploie ce mot d'assistanat. Combien faut-il de temps et d'efforts et de recherches et d'informations et d'analyses et de rationalité, de tout ce que vous voudrez, pour arriver à dissoudre ces idées reçues, ces idées clichés qui viennent immédiatement derrière certains mots. On en parlera à partir du 14. On va, je vous l'ai dit hier, faire une série de quelques émissions autour et avec Noam Chomsky, cet intellectuel américain, linguiste, professeur au MIT de Boston que nous avons rencontré là-bas, avec lui et avec toute une série d'intellectuels américains ou canadiens ou québécois qui sont dans cette mouvance, dans cet état d'esprit qui est assez différent d'une autre et qui ne manquera pas, j'espère, de nous et de vous surprendre, en tous les cas, qui nous a beaucoup passionnés, nous. J'espère qu'on arrivera à vous faire partager cette passion et ce côté jubilant. Surtout, je pense à Normand Baillargeon, on l'a rencontré au Québec. Et à côté de Montréal, il est l'auteur, j'avais parlé déjà de ce bouquin que je vous conseille chaleureusement, qui s'intitule Traité de défense, petit traité de défense intellectuelle, que vous pouvez trouver en France. Il est diffusé depuis cet été, je crois, mai ou juin. Et Normand Baillargeon nous apprend à déjouer ces pièges que nous avons en nous-mêmes sur ce mécanisme d'idées reçues. Dès qu'on entend le mot assistanat, immédiatement il y a une série de réactions, de réflexions qui se mettent en place, ou bien voilà, le système britannique, par exemple le taux de chômage en Grande-Bretagne qui serait moins élevé que le nôtre, alors que tout le monde sait que c'est par un jeu de chiffres tout à fait éhonté, en faisant passer nombre de sans-emploi sur le compte de la maladie, de la longue maladie, qu'on a pu faire baisser ce chiffre artificiellement en Angleterre. On l'avait démontré au cours de reportages avec Guy Van Til il y a déjà pas mal d'années. Et c'est comment démontrer ces idées reçues et leurs mécanismes, que ce contre quoi ce bouquin s'attaque. On en parlera avec le jubilant Normand Baillargeon dans les émissions à partir du 14. En tous les cas, on continue avec les messages que vous avez laissés sur le répondeur de la base et j'y suis.
Salut Daniel, c'est Ulysse de Vendée là. Il faudrait rappeler à tous ceux qui vont voter pour Nicolas Sarkozy qu'ils vont pas seulement voter pour lui, mais ils vont aussi voter pour Lagardère, pour Bouygues, pour Bernard Arnault, pour Madame Parizeau, présidente du MEDEF, pour son propre frère à lui, Sarkozy, qui est vice-président du MEDEF, pour le CAC 40, pour le FMI, pour la Banque mondiale, pour les délocalisations, pour les fermetures d'usines. Bref, comme toujours, dans sa politique, pour un capitalisme débridé et ravageur. Et il va susciter en France un climat d'insécurité, de haine et d'émeutes populaires. Au revoir Daniel, et merci, et bon courage.
Eh bien, on attendait le père Fouettard, et bien on a eu la mère Fouettarde. On l'a vu arriver avec son col officier, sa morgue, son agressivité. Elle a passé son temps à couper la parole, à perturber le débat, à fusiller du regard. Alors bien sûr, Sarko, il était désavantagé, c'est un homme. Comme Madame Royal est une femme, eh ben, il suffit d'entendre les commentaires sur France Inter, hein. On loue sa pugnacité, son esprit offensif, en positive. Évidemment, si Sarkozy s'était comporté comme ça, alors, à l'heure qu'il est, on parlerait de gros macho, facho, du mépris qu'il a pour son adversaire, du mépris qu'il a pour le peuple de gauche, selon le salmigondi sémantique de gauche, le réflexe pavlovien. Mais non, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je pensais m'abstenir, eh bien, je vais voter contre la mère Fouettarde. Voilà, il n'y a pas de raison, et puis je rigole 5 minutes, parce que si elle est élue, eh bien, je ne donne pas six mois... avant que ceux de banlieue, là, qui soi-disant la font kiffer grave, ou qui kiffent grave pour elle, plus exactement, je ne donne pas 6 mois avant que les petits caïds, ils aient une haine pour Royal, qui va se révéler ce qu'elle est, c'est-à-dire comme un mec, avec les mêmes travers que les mecs, violente, haineuse, hein, comme beaucoup de gens de gauche, d'ailleurs, je ne donne pas 6 mois avant que ces petits caïds de banlieue ne puissent plus avoir en peinture, comme Sarko. Au revoir.
Il y a une petite nouvelle qui est tombée en catimini, comme ça, entre les deux tours de la présidentielle, sur cette radio gauchiste qui est France Inter, le 1er mai. J'ai entendu ça au journal de 18h30. La France, le gouvernement UMP, le 1er mai, pendant que les Français étaient occupés à acheter du muguet, le gouvernement UMP a acheté des catapultes aux Américains. On a acheté pour 50 millions d'euros de catapultes. Et pourquoi faire ces catapultes? C'est pour mettre sur notre deuxième porte-avions qu'on va construire, donc, parce que ça y est, le projet est lancé. Entre les deux tours de la présidentielle, à 5 jours du deuxième tour, c'est très élégant de faire ça, comme ça personne n'en parle. Et en plus, c'est une belle patate chaude laissée à Ségolène au cas où elle gagnerait dimanche soir. Donc, on aura deux porte-avions dans ce pays en 2014. Et moi, je me rappelle, j'étais gamin en 1974, et on entendait comme slogan, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et en 2014, donc, nos enfants pourront dire, en France, on n'a pas d'école, mais on a des porte-avions. Voilà, votez bien. Au revoir.
Bonjour, je laisse sur le répondeur quelques lignes écrites par Friedrich Nietzsche en 1881 et je les dédie à un candidat qui parle souvent de la valeur travail. Ça s'appelle « Les apologistes du travail ». Dans la glorification du travail, dans les infatigables discours sur la bénédiction du travail, je vois la même arrière-pensée que dans les louanges des actes impersonnels et conformes à l'intérêt général. La crainte de tout ce qui est individuel. On se rend maintenant très bien compte, à l'aspect du travail, c'est-à-dire de ce dur labeur du matin au soir, que c'est là la meilleure police, et qu'elle tient chacun en bride, et qu'elle s'entend vigoureusement à entraver le développement de la raison, des désirs, du goût et de l'indépendance. Car le travail use la force nerveuse dans des proportions extraordinaires, et la soustrait à la réflexion, à la méditation, aux rêves, aux soucis, à l'amour et à la haine. Il place toujours devant les yeux un but minime et accorde des satisfactions faciles et régulières. Ainsi, une société où l'on travaille sans cesse durement jouira d'une plus grande sécurité. Et c'est la sécurité que l'on adore maintenant comme divinité suprême. Voilà. Allez, bonne journée à tous.
Je mesure aujourd'hui combien favorisé j'étais quand je travaillais chez Petit Louis. Habillé en course sur scène dans l'entrepôt modèle, je participais à l'expansion. À 5 heures du matin, levé comme à l'aveugle, se lever, avaler son café, s'enfoncer dans le noir, prendre le bus d'assaut, piétiner dans le métro, c'était le pied. Anastasie, l'ennui m'anesthésie, s'engouffrer au vestiaire, cavaler pour pointer, enlever sa casquette devant le chef, baigner toute la journée dans l'huile polluée, faire tourner la machine, quelle santé. Surtout ne pas parler et ne pas trop rêver, c'est comme ça que les accidents arrivent. Et puis le soir venu, repartir dans l'autre sens, vers le même enthousiasme en voyage. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. Heureusement qu'un jour, sur pont de Sèvres-Montreuil, dans le bain de vapeur quotidien, dans la demi-conscience, au hasard d'un chaos, j'ai senti dans mon dos tête de saint. Je me suis retourné, je t'ai bien regardé, et j'ai mis mes deux mains sur tes seins. Tu m'as bien regardé, et tu n'as pas bronché, bien mieux, tu as souri, et j'ai dit, Anastasie, l'ennui m'anesthésie. Tu t'appelais Ernestine, ou peut-être Norine, mais moi je préfère Anastasie. On a été chez toi, ça a duré des mois, j'ai oublié d'aller chez Petit Louis. Qu'est-ce qu'on peut voyager dans une petite carrée? On a été partout où c'est bon. Et puis un soir venu pour éviter l'ennui, on a décidé de se séparer. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. La morale de ce tango, tout à fait utopique, c'est que c'est pas interdit de rêver. C'est que si tous les prolos, au lieu d'aller pointer, décidaient un jour de s'arrêter et d'aller prendre leurs pieds, où ce que ça leur plairait, ça serait bien moins polluant que l'ennui. Y aurait plus de gars comme moi, comme j'étais autrefois, qui se répétaient tout le temps pour tuer le temps. Anastasie, l'ennui m'anesthésie.
Donc je voulais juste rappeler aux gens que moi je suis communiste, donc j'ai soutenu la campagne de Marie-Georges Buffet, mais que je suis prête à voter Ségolène Royal sans problème, parce que moi je veux une société responsable qui ne laisse personne en cours de route, même si je trouve que les propositions de Ségolène Royal sont un petit peu timides pour moi, Il y a moyen de les faire avancer et d'en proposer d'autres. Et pourquoi pas de travailler ensemble. C'est important pour ça. Et juste un petit rappel historique aussi par rapport à 68. Donc c'est comme Edith qui disait ça dans un tract. Nous refusons de devenir des professeurs au service de la sélection, dont les enfants de la classe ouvrière font les frais, des scientifiques dont le travail sera utilisé selon les intérêts exclusifs de l'économie ou du profit. Donc ça, c'est par rapport au refus d'une société encore trop libérale, pour moi, et qu'il va le devenir si M. Sarkozy passe. Merci à tous et votez bien. Au revoir.
Bonjour Jean-Daniel, toute l'équipe, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec la dame qui appelait avant-hier, là, qui disait qu'il faut arrêter les mots vraiment inacceptables, notre si belle France, arrêtons qu'on est quand même intelligent, mais d'entendre des mots pareils, franchement, faut arrêter. Bon, voilà, mais là, je parle de Ségolène Royal, mais je rêve. Un policier, là, on n'en parle pas, là, ce matin, elle était chez vous, mais alors pour vous avoir... Bon, mettre un policier derrière chaque femme, mais on rêve, mais on n'est plus pendant la guerre. Voilà, alors je voudrais dire à toutes les personnes qui ont téléphoné partout, je veux dire que c'est vraiment des guignols, Beauvais, ma mère, les communistes. Qui est-ce qui était dangereux hier? Franchement, toujours mépris. Elle a toujours été méprisante, agressive, vraiment imbécile, avait raison, une dictature, toujours imprévisible. Franchement, alors qui est-ce qui était dangereux hier? C'est bien elle, et elle me fait peur. Elle me fait peur et elle est vraiment dangereuse. On voit vraiment là, son sourire, elle porte vraiment la brutalité. Bien sûr, 4 heures de concert gratuit pour attirer les gens. Alors franchement, alors moi je tiens à féliciter M. Sarkozy. Le plus honnête, c'est bien lui. Je voudrais lancer un message au journal Le Soir belge. J'ai honte vos propos, franchement. Alors que 3/4 des Belges ont voté pour M. Sarkozy, il faut arrêter votre journaliste qui est à Paris, les propos vraiment qui dénigrent M. Sarkozy. Alors il faut arrêter, rien ne va en Belgique, c'est dans toutes les communes socialistes, mais j'ai honte. Ils passent plus leur temps en France que de s'occuper de ce qui se passe, les agressions en Belgique. Ils n'en parlent pas, ils sont toujours en grève. Alors j'ai honte du journal Le Soir, franchement. Alors je vais leur dire, le plus dangereux c'est Ségolène Royal et moi elle me fait peur. Franchement, hier, son agressivité est toujours méprisante. Alors, je tiens à féliciter M. Sarkozy, parce que franchement, c'est le plus honnête. Alors, vive Sarko. Allez, au revoir, Benel. Bonne journée à toute l'équipe.
Le monde fonctionnait sur un système économique qui consumait méthodiquement les territoires du vivant et organisait des formes insidieuses d'asservissement des humains. La plus grande partie d'entre eux, les rabougris, ne survivait qu'en achetant les ordures des boursouflés. Baignés dans un environnement saturé de miroirs, les rabougris étaient conditionnés pour l'acte d'achat dès leur existence fœtale. Ils se demandaient souvent d'où provenait leur mal de vivre. Pour démultiplier leurs profits tout en évitant la révolution, les boursouflés avaient détourné l'attention des rabougris en créant de toutes pièces un pseudo-choc de civilisation à l'échelle mondiale. Cela avait été facile. Il avait suffi de diviser les rabougris en braquant sur eux d'innombrables miroirs. De cette manière, il les avait changés en millions de clones stériles d'idéal masculin et en millions de clones stériles d'idéal féminin. Dès lors, les relations humaines ne furent plus directement vécues, mais diluées dans leurs représentations spectaculaires. Car tout avait été mis en scène. Les boursouflés tiraient les ficelles de leurs marionnettes dociles et dévouées. Pour ma part, je pense que le suicide est un problème génétique, dit un boursouflé. Ensemble, tout doit disparaître. Non. Ensemble, tout devient possible. Le théâtre prit feu et carbonisa.
Oui, on va la rediffuser une deuxième fois parce qu'on a regardé sur nos sondages, enfin sur nos compteurs, c'est les boursouflés qui n'avaient pas compris ce message. Les rabougris avaient compris, mais pas les boursouflés. Donc on a rediffusé message de cet auditeur qui en a laissé toute une série. Et je pense qu'après lundi ou enfin dans la semaine prochaine, sera intéressant de réécouter toute cette série tout à fait intéressante. C'est ça. Je suis en train de penser aux gens du CSA qui sont en train d'écouter là-bas si j'y suis avec leur chronomètre. Ah oui, il y a tout un tas de gens qui sont au CSA et qui sont avec des chronomètres. Clac, hop, ça démarre un message alors qui fait 1 minute 16, l'autre qui fait 28 secondes, l'autre qui fait 2 minutes 5, l'autre 20 secondes, etc. Puis là, ils ont deux colonnes, les pour l'un et les pour l'autre. Mais alors après, c'est la question, c'est quelle est la qualité, l'efficacité, la pugnacité, etc. Ça, c'est tout à fait secondaire. Et donc, c'est là-dessus qu'on peut jouer encore quelques instants, peut-être, jusqu'à 16 heures.
C'est Philippe à Dijon. Eh ben, en 80, il y avait Au Bonheur des Dames et Odeur, super groupe de musique, de chansons françaises, juste avant l'élection de Mitterrand, qui avait sorti un super album. Donc voilà un titre. Au revoir à tous, à bientôt.
Un petit QI, un gros bunker.
C'est là ?
Nouvelle droite,
j'appuie un tour.
La revalorisation du travail selon Sarkozy, c'est 2 euros par an et par salarié chez Airbus et des stock options sans modération pour les patrons. Travailler plus pour gagner plus, chez Airbus, des multipressions d'emplois. La récompense du mérite et du résultat, Monsieur Forgeard, ancien PDG d'Airbus, responsable des échecs du A350 et A380, obtient à l'amiable 8,5 millions d'euros. Entre la réalité et les promesses de Sarko, l'écart est incommensurable.
Salut Daniel. Avant que les gens aient voté, surtout ceux qui te reprochent souvent de faire ton émission avec l'argent du service public, tu aurais peut-être rappelé aux gens que quand M. Sarkozy était ministre du budget, il a répondu favorablement à une demande américaine d'annulation de la dette irakienne. Donc tout le monde sait maintenant, ce qui était évident au départ, mais tout le monde sait maintenant que les Américains sont partis, comment dire, faire la guerre en Irak sans l'autorisation de l'ONU, et on sait pourquoi, ils ont fabriqué des preuves. Et M. Sarkozy, lui, était d'accord pour annuler la dette irakienne, c'est-à-dire l'argent qui avait été prêté par la France à l'Irak, c'est-à-dire l'argent des impôts. Alors ceux qui chialent en permanence de payer des impôts, il ferait bien de réfléchir un peu à ça.
Nicolas Sarkozy vous aime. Nicolas Sarkozy vous fait des bisous dans le cou. Des petits bisous dans le cou. Nicolas Sarkozy vous aime.
Machiavellica Portugal. Rachidico dal Senegal. Paranoia americana.
Le droit du sol. Savez-vous que beaucoup de gens ne l'ont pas, le droit du sol? Ils ont seulement droit à 13, 23, 33 mètres carrés à l'étage d'un immeuble. Aucun droit sur le sol. Les pieds au sol, pourtant, c'est naturel. Pieds sur la terre aux hommes bien constitués, c'est la loi de la gravité. À la gravité s'oppose la légèreté. C'est comme ça que ceux des humains qui n'avaient pas le droit du sol, qui n'avaient aucun droit sur la terre, ont inventé le droit au ciel. Dans leur idée, tout le monde avait droit au ciel. Alors, pour contrarier les rêveurs, l'institution s'est déguisée. Elle a confectionné, sur mesure cependant, de nouveaux costumes de cérémonie pour pouvoir décerner le droit au ciel. Costumes fabriqués sur le modèle de ceux que l'on peut voir au tribunal. Vous savez, cet endroit où l'on chasse les gens de leur terre. Et pour gérer le ciel, l'institution, elle a fondé l'église. Alors tout le monde n'a plus le droit au ciel. Le ciel devint un domaine réservé à ceux qui jouissaient déjà du droit du sol. Et pour les autres, l'église a inventé l'enfer. Sur terre, il y avait déjà les prisons, les cachots, les galères, les trottoirs, les caniveaux où ça rigole pas trop. Et désormais au ciel, il y a eu l'enfer. Reste le droit au sous-sol. Tous les humains ont droit au sous-sol. C'est le prolongement de la loi de la gravité. Phénomène par lequel un corps est attiré vers le centre de la Terre et que l'on peut vérifier dès qu'on ouvre la Terre et que le sol se dérobe sous les pieds. Mais même au sous-sol, tous les humains n'ont pas les mêmes droits. Il y a toujours les possédants qui font bâtir un caveau au-dessus du morceau de sous-sol qu'ils possèdent. Et il y a les possédés qu'on fait brûler et dont les cendres se dispersent dans l'atmosphère soudain nimbée d'affliction. Et il y a aussi ce que l'on enterre avec le N apostrophe de la négation entre on et enterre, que l'on enterre. Ceux qui sont à l'index sur le sol sont souvent jetés pêle-mêle au sous-sol, charniers, cimetières des cadavres non indexés. Alors, planté entre terre et ciel, à l'étage d'un immeuble bétonné, je m'accroche aux quelques mètres carrés qu'un bailleur m'a concédé. Et je la ferme. J'ai mis un verrou à la porte pour me persuader que j'étais chez moi et j'ai planté des marguerites, artificielles bien sûr, dans le plancher pour me donner l'illusion que j'étais sur la terre. Voilà, c'est bien, ça s'est pas coupé. J'ai un décrire ça. Ça m'est venu comme ça en réfléchissant au droit du sol. Et vous avez la primeur, là, Christophe, Daniel et toute l'équipe. Bon, j'espère que ça vous a plu.
On nous montre comment développer des pensées positives du genre « T'es pas si nul que ça. » Et vous y arrivez.
Aujourd'hui vers 10h, verdir et 10 blafards. Rendez-vous chez coiffeur, pas être en retard. Chou-fleur ou lard? Lard ou chou-fleur? Charcutier à 16h, pas être en retard. Avec ou sans fleur, et sera un pétard. Chou-fleur ou lard? L'art ou chou-fleur? Il va couper, j'ai peur. Mes cheveux en pétard. Oh là là, ma tête, quel malheur. Ma tête, quel hachoir. Dans les selles, avec les fleurs. Des dans les fleurs, des dans les larmes. Aujourd'hui vers 10h, verdir et 10 cafards. Quel gueulard ce coiffeur, quel malheur ce grelard. Quel gueulard ce coiffeur, quel malheur ce grelard. Quel gueulard ce coiffeur, quel malheur ce grelard.
donc de Dijon. J'ai entendu tous vos commentaires donc dans l'émission là-bas si j'y suis. Je vous avouerai que je suis assez révolté de ce qui se passe. On passe son temps à critiquer Sarkozy, l'homme, mais jamais son programme. On en met de tous les côtés. La dernière fois dans votre émission, j'ai entendu quelqu'un de parler de ses parties génitales. Je ne vois vraiment pas ce que cela vient faire dans le débat politique. Les médias sont horribles avec cet homme et jamais avec son programme. Je n'étais pas forcément Sarkozy au début, je le suis. Enfin, je vais le devenir, en tout cas, je le deviendrai le 6 mai pour voter. Parce que je trouve que c'est horrible ce qu'on, ce, tout ce qu'on lui remet sur le visage à cet homme-là, alors qu'il a, il a rien fait que de se présenter à la présidence. Et son programme tient la route plus qu'une autre candidate. Bonne soirée à tous, au revoir.
Ses parties génitales, ah bah alors ça, ça m'étonne. Alors ça nous a peut-être échappé. Vous voyez l'utilité des messages que vous laissez dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis, c'est ça. Des fois, il y a des choses qui passent et puis, bon, voilà, hein, une émission quotidienne, il y a beaucoup de choses. Eh bien, merci de nous le rappeler, de nous le signaler. Merci à tous, en tout cas, pour les messages que vous laissez sur cette, dans ce boîte vocale quotidiennement. Vous avez compris que cette heure vous est entièrement consacrée encore quelques instant jusqu'à 16 heures.
J'avoue être assez friand des émissions de Mermet. Au nom de la pluralité, au nom de la diversité, au nom de l'égalité des convictions, pourquoi pas, et effectivement, il est excellent d'émission. Néanmoins, France Inter est devenue quand même une émission, une chaîne radiophonique de, d'opinion, grâce à M. Mermet. Et j'avoue que ce hold-up permanent intellectuel sur les opinions des Français et ce dirigisme et cette manipulation permanente qu'il fait dans ses reportages finit par agacer un petit peu. La manipulation, oui, j'en ai la preuve. Une émission en fait dans les quartiers chics de Paris, manifestement, puisque la journaliste évoque l'automne naissant, donc ça n'est pas une émission qui a été faite aujourd'hui, mais il y a quelques mois, parce que c'était au début de l'automne, je crois qu'elle est ancienne, et diffusée juste entre les deux tours, ça s'appelle quand même, avec un certain machiavélisme, de la manipulation intellectuelle, et c'est vrai que Mermet est quand même passé maître dans l'art de manipuler les opinions et les consciences, et surtout avec son petit rire narquois d'exciter les gens, c'est vrai, tout ça est un peu négatif quand même, et c'est vrai qu'à un certain moment je manquerai d'humour à son encontre. Au revoir.
Nicolas Sarkozy vous aime. Nicolas Sarkozy vous fait des bisous dans le cou, des petits bisous dans le cou. Nicolas Sarkozy vous aime.
Oui, bonjour Daniel. C'est pour signaler une grande soirée le 11 mai à Saint-Denis à 20h. On organise une soirée pour le parrainage de demandeurs d'asile à la Belle Étoile. Donc ben, les réservations, c'est au 06 64 71 22 34. Ou alors au site mots comme des paroles et regards, M-O-T-S et regards, R-E-G-A-R-D-S. Et ça serait vachement sympa de venir nombreux parce que je crois que nos amis demandeurs d'asile n'ont plus que jamais besoin de nous. Donc si tu pouvais faire passer ce message pour qu'on soit très 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 nombreux à s'organiser pour le parrainage de ces gens en souffrance, ça serait vraiment sympa. Merci à toi et salut à tous.
J'annonce le nouvel horaire du Café Repère parisien qui se tient toujours tous les premiers et troisièmes samedis du mois au lieu dit 6 rue Sorbier, Paris 20e, métro Ménilmontant. L'horaire nouveau c'est 17h-19h. On commence à 17, on finit à 19. Et souvent après, il y a pas mal de gens qui restent pour manger ensemble. Je sais qu'à Paris, on n'a pas l'habitude de trouver des thèmes. Qu'on les cherche une fois sur place, mais comme là, ce sera la veille du ciné, date si attendue.
Voilà, merci à tous à la technique aujourd'hui, Rémi Quincé, Bertrand Durand, c'est Yann Chouk et Colin Gouin qui ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry, et Christophe Imbert a fait tout le boulot aujourd'hui avec le répondeur de la basse JSU au 01 56 40 37 37. Il a fait tout le boulot, mais vous en avez fait pas mal aussi. Merci à tous.